VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson ce matin. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de notre émission.
Une branche d'ACMI revendique l'enlèvement de la Suissesse kidnappée à Tombouctou au début du mois.
Grogne des étudiants à N'Djamena, intervention de la police hier sur le campus de Toukra.
Les gens de Toukra revendiquent la réouverture du restaurant qui est fermé faute de financement et de l'électricité sur le site de Toukra et puis la bibliothèque et le centre de santé.
Dans notre partie magazine, la polémique enfle au Sénégal sur l'homosexualité.
Et plus léger, nous vous dirons tout ce matin sur les chambres de passage qui connaissent un grand succès à Cotonou.
Moi, je trouve aucun inconvénient à fréquenter les chambres de passage. Les chambres de passage, si ça n'existait pas, il fallait bien les inventer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire chez soi.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le journal des sports, la Tunisie et la Guinée se qualifient pour les quarts de finale du CHAN au Rwanda. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Revendication de l'enlèvement d'une ressortissante suisse par une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'agence mauritanienne Al-Akhbar affirme avoir reçu une vidéo de l'émirat du Sahara, affirmant avoir enlevé la Suissesse Béatrice Stöckli à Tombouctou, dans le nord du Mali, dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier. D'après l'agence, en contrepartie de la libération de Madame Stöckli, le groupe djihadiste exige la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et de l'un de ses dirigeant Abou Tourab, détenu à la Cour pénale internationale.
Abou Tourab, c'est le nom de guerre d'Ahmad al-Faqih al-Mahdi, qui était un des chefs dans Sardine, lié à ACMI, accusé de destruction d'édifices religieux et de monuments historiques à Tombouctou en 2012. Il est de fait le premier djihadiste devant la CPI et le premier suspect arrêté dans l'enquête de la Cour sur le Mali.
Et c'est dans ce contexte que le nouveau chef de la MINUSMA annonce le précantonnement de groupes armés qui se dessinent à Tombouctou. Lors de sa conférence de presse, Mahamat Saleh Anadif a salué un geste fort du gouvernement malien. Il est aussi revenu sur la méfiance de la population malienne contre la mission onusienne.
La meilleure façon de changer cet état de choses, c'est de se parler, c'est de dialoguer, c'est d'expliquer. C'est ce que nous nous efforcerons de faire. La MINUSMA est ici au Mali au service des Maliennes et du Mali. Elle ne doit rien faire qui puisse entraver la paix, la concorde, la stabilité au Mali. N'oublions pas que nous avons les ennemis de la paix. Conjuguons les efforts pour qu'on puisse amoindrir les effets négatifs de ces ennemis-là.
C'était Mahamat Saleh Anadif au micro du correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
Au Burkina Faso, 19 personnes ont été arrêtées en rapport avec l'attaque du dépôt d'armes par des soldats de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle, le RSP. Le procureur doit donner une conférence de presse aujourd'hui. Le point avec Maïli Segel.
Parmi les 19 suspects arrêtés figurent deux civils soupçonnés de complicité avec les assaillants. L'armée recherchait au total une quinzaine de soldats de l'ex-RSP après l'attaque du dépôt d'armes situé près de Ouagadougou. Elle a annoncé l'arrestation de 11 d'entre eux et la mort d'un autre dans le sud du Burkina. Suite au putsch raté du 17 septembre, le gouvernement avait dissous l'ex-RSP, unité d'élite de l'armée burkinabé. 9 soldats de ce régiment avaient été considérés comme déserteurs pour n'avoir jamais rejoint leur nouveau poste d'affectation. D'après les forces de sécurité, il est très probable qu'ils aient des liens avec les récents événements. L'armée burkinabé soupçonne fortement des éléments déserteurs ayant trouvé refuge de l'autre côté de la frontière de bénéficier de soutien en Côte d'Ivoire, mais aussi de soutien d'autres militaires de l'armée loyaliste.
Au Togo, publication hier du décret sur le statut de l'opposition, le texte détermine que le chef de file de l'opposition a rang de président d'institution selon le protocole d'État et donc dispose d'avantages pécuniaires et matériels. Le chef de file de l'opposition togolaise doit en contrepartie préserver l'intérêt supérieur de la nation.
Des experts des Nations Unies recommandent au Conseil de sécurité d'imposer au Soudan du Sud un embargo sur les armes et des sanctions contre le président Salva Kiir et le chef des rebelles Riek Machar. Le point Chérubin Dorsil.
Dans un rapport obtenu par l'AFP, le groupe d'experts onusiens affirme que le président sud-soudanais et son ex-vice-président sont responsables de la majorité des violences commises depuis 2 ans à travers le pays. Fustigeant ce qu'ils appellent l'incapacité des membres du Conseil à mettre fin à la crise au Soudan du Sud, le rapport indique que l'accord conclu sous pression de l'ONU le 26 août dernier entre le président Salva Kiir et le chef de la rébellion Riek Machar n'a pas fait baisser la violence de manière significative. Au contraire, les protagonistes ont affiché des tendances toujours belliqueuses, cherchant à accroître leur arsenal militaire. Les deux camps, soulignent les experts, recrutent des enfants soldats et utilisent le viol et l'enlèvement de femmes et de filles comme tactique de guerre. Aussi, selon ce rapport, le Conseil de sécurité devrait-il sévir contre les chefs Salva Kiir et Riek Machar, mais aussi bloquer l'accès aux armes qui alimentent les souffrances des Sud-Soudanais de part et d'autre. Cependant, notent certains diplomates, l'option de l'embargo est loin de faire l'unanimité au sein du Conseil, y compris parmi les 5 membres permanents.
Par ailleurs, Riek Machar a rencontré cette semaine le président ougandais Museveni, l'Ouganda qui a célébré hier le jour de la libération, le 30e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni. Le président Museveni briguera le 18 février à un nouveau mandat de 5 ans face à 7 candidats, Nani Talani.
Âgé de 71 ans, Yoweri Museveni est en 5e position des présidents au pouvoir depuis très longtemps sur le continent, avec plus de 30 ans de règne. Il se présente pour la 4e présidentielle consécutive et fera face à 7 candidats pour ce scrutin du 18 février. Parmi ses adversaires de taille, il y a Kizza Besigye, qui a déjà perdu 3 fois aux élections de 2001, 2006 et 2011. Monsieur Besigye, patron du Forum pour le changement démocratique, avait été médecin personnel de Museveni dans le Maquis avant de devenir son ministre. L'autre grand concurrent, Amama Mbabazi, a été premier ministre avant de tomber en disgrâce, puis limogé en septembre 2014. Leur passé au sein du Mouvement national de résistance risque d'amoindrir la portée de leurs critiques contre un régime auquel ils ont longtemps participé et ont aidé à mettre en place. Du coup, M. Museveni est donné largement favori, pour ne pas dire indéboulonnable.
Au moins 3 personnes ont été blessées hier dans le nord de la Sierra Leone lors de protestations de jeunes en colère contre des mesures anti-Ebola. Selon l'agence France-Presse, les violences se sont produites à Barmoy-Louma, dans le district de Cambia.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Tunisie, le parti islamiste modéré Ennahda est de nouveau majoritaire au Parlement après le départ hier d'un groupe de députés dissidents, Claire Morin-Gibourg.
Nida Tounes, le parti fondé par l'actuel chef de l'État tunisien, Beji Caïb Essebsi, a perdu son statut de premier bloc parlementaire au profit de ses alliés islamistes, d'Ennahda. Ce nouvel équilibre politique ne remet pas en cause à court terme le soutien de la majorité parlementaire au gouvernement de Habib Essid, mais il constitue une nouvelle étape dans le délitement de Nida Tounes, parti déchiré par une guerre de succession depuis le départ de son chef pour la présidence fin 2014. Les 22 députés démissionnaires de Nida Tounes se sont regroupés au sein d'un nouveau bloc, Al-Hora, ce qui signifie la libre. Les membres d'Al-Hora font pour la plupart partie du clan de Mohsen Marzouk, secrétaire général démissionnaire de Nida Tounes, qui doit lancer début mars une nouvelle formation.
L'aviation civile algérienne a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la liaison aérienne Alger-Tripoli à partir de vendredi. Le ministère algérien des Transports ne précise pas les raisons de cette suspension, mais la Libye a sombré dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi.
Le président iranien Hassan Rouhani achève aujourd'hui sa visite en Italie avant de se rendre en France. Seconde étape d'un voyage qui marque le spectaculaire rapprochement entre l'Iran et les puissances européennes depuis la levée des sanctions liées au dossier du nucléaire.
La justice égyptienne va juger à partir d'aujourd'hui le coordinateur du mouvement du 6 avril, une formation interdite, pour incitation à la grève. Le mouvement du 6 avril est un mouvement de jeunes militants laïcs et de gauche qui a été le chef de file de la contestation qui avait chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir début 2011.
Le Parlement danois a adopté à une écrasante majorité sa réforme décriée du droit d'asile. Le texte vise à décourager les migrants de tenter leur chance dans le royaume sous peine de se voir confisquer leurs effets personnels de valeur. Pendant ce temps à Bruxelles, la Commission européenne s'est dite prête à toutes les éventualités après que des États membres ont demandé la possibilité de prolonger jusqu'à 2 ans les contrôles aux frontières intérieures dans l'espace Schengen.
Enfin, Ban Ki-moon a vivement critiqué devant le Conseil de sécurité la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à un gel des constructions. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répliqué en accusant M. Ban d'encourager le terrorisme.
Voilà, c'était le journal sur VOA Afrique en ce mercredi matin. Place à présent à la Minute Éco qui nous est présentée par Nathalie Barge.
De Beers a vendu pour 540 millions de dollars de diamants bruts au premier cycle 2016, en nette hausse par rapport au dernier cycle 2015 qui était de 248 millions, a annoncé le diamantaire dans un communiqué. Selon l'agence Bloomberg, les prix sont au plus bas depuis 6 ans après une chute de 18% en 2015, la plus forte depuis la crise de 2008. La demande en Chine, deuxième marché après les États-Unis, s'est affaissée en même temps que la croissance du pays. Les fonds d'investissement dédiés à l'Afrique en 2015 ont connu une remarquable progression de 51% pour s'établir au montant record de 3,890 milliards de dollars selon Private Equity International cité par Financial Africa. Selon la revue spécialisée, la progression fulgurante des fonds levés pour le continent s'explique surtout par la multiplication des opportunités d'investissement dans les secteurs des télécommunications, des infrastructures et des services financiers. Le constructeur français PSA Peugeot Citroën va lancer un laboratoire d'innovation dédié aux énergies vertes et aux véhicules électriques en Afrique, en collaboration avec des universités et écoles d'ingénieurs au Maroc. Dénommé Mobilité durable pour l'Afrique, ce laboratoire fonctionnera sur le principe du partage des connaissances et des résultats, indique l'APA. PSA a annoncé en juin dernier l'implantation d'une usine sur le continent à Kenitra, 40 km de Rabat. Ce site doit être opérationnel en 2019 pour produire des modèles économiques ciblant les pays émergents, en Afrique notamment.
Merci Nathalie, on enchaîne avec les sports. Pour en parler, on retrouve ce matin Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
Allez, on commence par du football. Le championnat d'Afrique des Nations 2016 réservé aux joueurs locaux, le CHAN, dans le groupe C, la Tunisie et la Guinée se qualifient pour les quarts de finale.
Oui, première participation réussie pour la Guinée au championnat d'Afrique des Nations. Le Sili National a arraché ce mardi son ticket pour les quarts de finale en disposant du Nigeria, leader avant la dernière journée sur le score d'un but à zéro. Les Guinéens terminent à la deuxième place derrière la Tunisie qui a pulvérisé le Niger sur le score sans appel de 5 à 0.
Bagassi, quel est le programme de ce mercredi?
Oui, le Mali affronte la Zambie tandis que le Zimbabwe joue contre l'Ouganda dans le groupe D. Chaque équipe a 2 points, autant dire que les chances sont ouvertes.
Allez, on parle transfert. Emmanuel Adebayor à la relance. Le joueur togolais a signé à Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison.
Oui, l'attaquant togolais sans club depuis la fin de son contrat avec Tottenham en septembre 2015 s'est engagé à Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'a annoncé le club 11e de la Premier League. Adebayor, âgé de 31 ans, avait rejoint le championnat anglais en 2005-2006 à Arsenal en provenance de Monaco. Si Crystal Palace n'a fourni aucun détail financier de la transaction, le togolais auteur de 18 buts en 59 matchs avec Tottenham depuis sa signature définitive en août 2012 toucherait un salaire mensuel de 400 000 euros selon les médias.
Autre transfert, cette fois-ci, c'est l'Ivoirien Gervinho qui s'envole vers la Chine.
L'attaquant international ivoirien de l'AS Roma, âgé de 28 ans, s'est engagé avec EB China's Fortuna FC. Annonce faite ce mardi par le club chinois de la lucrative Super League. Le montant et la durée du transfert n'ont pas été précisés. Mais selon certains médias, la transaction s'élèverait autour de 18 millions d'euros et la durée du contrat serait de 3 ans.
Retour sur l'élection du président de la FIFA qui aura lieu dans un mois. 5 candidatures ont été retenues.
La FIFA a confirmé les candidatures à la présidence de Cheikh Salman, du prince Ali, de Gianni Infantino, de Jérôme Champagne et de Tokyo Sexoale. L'élection est prévue dans un mois, le 26 février à Zurich. Les 209 fédérations qui composent la FIFA désigneront à cette date le successeur de Joseph Blatter, président démissionnaire et suspendu 8 ans. Et puis enfin, Nicolas, pour terminer, le championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Oui, Bagassi, les Clippers, ceux de Los Angeles qui dominent Indiana 91-89. Phoenix s'incline à Philadelphie 103-113. Miami qui bat Brooklyn 102-98. Oklahoma City s'impose dans les prolongations sur le parquet des Knicks de New York 128-122. Et on remercie en ce mercredi matin à Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Les premières escales à Brazzaville, où l'on continue de débattre de la désignation sans surprise de Denis Sassou Nguesso comme candidat du PCT pour la présidentielle. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, a désigné celui qui cumule 32 ans de pouvoir comme son candidat pour le scrutin du 20 mars prochain. Éric Manirakiza a joint le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo.
Le crédit, eh bien, mais c'est un peuple, le peuple du Congo. Son candidat, aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est la base du Parti congolais du travail qui s'est exprimé. Mais un parti démocratique prend acte de l'opinion majoritaire. Parce qu'en face, il n'y a personne.
Si en face, il n'y a personne, pourquoi vous organisez des élections alors?
Je dis en face, il n'y a personne qui puisse faire le contrepoids. Les autres, ils existent. Mais c'est simplement l'ambition. Il n'y a personne qui puisse faire le contrepoids.
Que va-t-il apporter de plus à ce qu'il n'a pas fait pendant plus de 30 ans?
C'est d'abord la préservation de la paix et bon, la consolidation de la démocratie. Et de tous ceux qui aujourd'hui se présentent, il n'y a pas une figure nouvelle avec un projet alternatif crédible. Pourquoi donc tenter l'aventure d'un changement?
Vous n'aimez pas le changement?
Il ne s'agit pas d'aller au changement pour un suicide. Il s'agit d'aller au changement pour corriger. Mais nous n'avons pas, en France, là, des gens qui garantissent une évolution à partir de notre présence.
Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT à Brazzaville, pour une réaction de l'opposition. Nani Talani a joint Guy Romain Kimfusia, un leader de l'une des nombreuses coalitions de l'opposition congolaise à Brazzaville.
C'est une investiture qui était connue d'avance. Ce n'est pas une surprise, ni pour le peuple congolais, ni pour ceux qui suivent l'activité politique au Congo. Monsieur Sassou, de manière unilatérale, a voulu changer la constitution par laquelle il a eu toute la légitimité d'être le président du Congo. Et en cours de parcours, avant la fin de son mandat, il l'a abandonné pour faire adopter par référendum une autre constitution. Un référendum qui s'est mal passé. Sa volonté farouche, c'est d'avoir un troisième mandat, mais en réalité, c'est pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Pour se maintenir au pouvoir de manière tout à fait protégée, il est obligé de forcer la loi fondamentale qui lui donnait juste deux mandats. La course vers laquelle M. Sassou est en train de galoper est une course pour se maintenir au pouvoir vitam aeternam.
Maintenant que la course est déjà lancée, que compte faire l'opposition?
L'opposition va y aller à condition que les commissions permissibles soient respectées. Il y a une commission électorale indépendante. On n'a pas un candidat unique parce que ce n'est pas la panacée. Quand on regarde toutes les élections qui se sont passées ces 10 dernières années en Afrique francophone, qui ait eu un candidat unique. Alors, il ne faut pas qu'on nous rabâche tous les jours. Est-ce que vous allez aller avec un candidat unique? Ce n'est pas la panacée. Nous allons aller avec des candidats multiples. Oh, pas en grand nombre, mais suffisamment pour que dans les bureaux de vote, nous ayons plusieurs représentants. Parce que M. Sassou va se faire entourer de lièvres pour l'accompagner dans les bureaux de vote afin de tricher.
Guy Romain Kimfusia, opposant congolais, il était joint à Brazzaville. Direction N'Djamena pour parler de la grogne des étudiants tchadiens du campus de Toukra. C'est à une dizaine de kilomètres de la capitale. La police est intervenue hier pour disperser leur mouvement d'humeur. Les étudiants revendiquent de meilleures conditions d'études sur ce campus pourtant inauguré en 2012. Timothée Langmaille a recueilli les explications de Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena.
Les gens de Toukra revendiquent la réouverture du restaurant qui est fermé faute de financement et de l'électricité sur le site de Toukra et puis la bibliothèque et le centre de santé. Donc voilà les revendications des gens de Toukra. Ça fait là 3 semaines, le gouvernement n'a pas répondu. Ils sont obligés de manifester, de barricader.
Pourquoi vous ne disposez pas de restauration là-bas?
La restauration est fermée parce que l'entreprise qui gère dit que l'État n'a pas versé les prêts de ses factures. Donc il ne peut pas continuer.
Qu'en est-il de l'électricité?
L'électricité, bon, c'est pas dans le contrat de l'entreprise. C'est le gouvernement qui fournit l'électricité. Là-bas, tout est moderne, donc quand il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas.
C'est un campus tout neuf. Alors, d'où vient-il qu'il y ait des problèmes d'électricité là-bas?
Là-bas, on fonctionne avec l'autre générateur, le groupe, parce que la SNE, la société d'électricité,
pour pas couvrir ceci. Donc, on utilise les groupes pour fonctionner là-bas. Et ces groupes, ce n'est pas dans le contrat de l'Ernetec, la société qui gère. Et plutôt, c'est le gouvernement, à travers le rectorat, qui envoie le carburant. Mais depuis 31 décembre, les étudiants sont en panne chef et tout est bloqué. Ils ont supporté pendant 2 semaines et rien n'est fait. Ils sont obligés de barricader.
Apparemment, vous avez aussi des problèmes au niveau des installations sanitaires.
Oui, parce que le site de Toukoua est loin de la ville et il n'y a même pas un centre de santé. Même l'année dernière, nous avons perdu 2 étudiants et nous ne voulons pas enregistrer encore des victimes. C'est pourquoi les étudiants revendiquent une ambulance sur le site de Toukoua. Oui.
Quel est l'impact de cette situation sur les cours à l'université de Toukoua?
L'année académique 2015-2016 vient d'être lancée, le 15, mais jusqu'à là, tout est bloqué à l'autre, surtout sur le campus de Toukoua. Parce que les étudiants exigent à ce que le minimum de revendications soit satisfait avant que les cours puissent démarrer. Donc, la situation reste toujours bloquée à Toukoua.
Richard Nguelem, le secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Malgré la forte tendance à la baisse du baril de pétrole sur le marché international, les prix à la pompe n'ont pas changé en Mauritanie. Des internautes, après avoir sonné la mobilisation sur les réseaux sociaux, ont même organisé une manifestation à Nouakchott. Le maintien des prix des hydrocarbures en l'état s'accompagne également d'une hausse des prix des denrées alimentaires à forte consommation. On écoute le reportage du correspondant de VOA Africa Nouakchott, Khalilou Diagana.
Le prix du litre de gasoil à la pompe est vendu à 385 ougia, le litre d'essence 402 ougia. Un dollar américain vaut 325 ougia environ. Au garage, des taxis brousses et minibus qui font le trajet entre Nouakchott et le sud du pays, les passagers se plaignent de la cherté des tickets de transport. Des partis politiques s'insurgent aussi contre la non-baisse des prix à la pompe. Pour l'Alliance populaire progressiste APP, le pouvoir est en train de rançonner les populations et d'engranger des milliards sur le compte du contribuable. Le gouvernement a dit son porte-parole, sans aucune ambiguïté, ne compte pas prendre de mesures visant à baisser le prix des hydrocarbures. Pour Moussa Oulsambassi, directeur de publication du quotidien de Nouakchott, le gouvernement, par le maintien des prix à la pompe en l'état, cherche à combler d'autres déficits.
On sait que le principal élément du budget de l'État mauritanien était les dividendes reçus à partir de la vente du fer de la CNIM. Il y a eu une baisse importante du prix du fer sur le marché international. Aujourd'hui, on estime que le gouvernement, pour compenser cette perte, il refuse de baisser ses prix à la pompe comme tous les pays voisins. Écoutez, le Mali, le Sénégal, le Maroc ont tous baissé 3 fois, 4 fois, voire 5 fois, et non pas une seule fois.
La non-baisse des prix du gasoil s'accompagne d'une hausse des prix des produits de première nécessité. Le prix du sac de 50 kg de riz est passé de 11 000 à 15 000 ougia. La forte hausse a touché aussi le sucre, l'huile, le lait, le thé, et les ménages commencent à voir rouge. Mohamed, marié et père de 5 enfants.
Ça devient vraiment intenable pour un père de famille que de pouvoir nourrir toute sa famille avec les salaires déjà que nous avons. Et puis avec l'augmentation des produits de première nécessité, ça devient vraiment très 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 difficile pour nous. Malheureusement aussi, le consommateur ne semble pas avoir quelqu'un pour prendre en charge la défense de ses intérêts.
Les associations de défense des consommateurs, en effet, face à cette flambée des prix, gardent un curieux silence. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Direction Dakar, faut-il pénaliser l'homosexualité de la manière la plus sévère qui soit? Cette question se pose actuellement au Sénégal après l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'homosexualité puis relâchées. Reportage à Dakar de Sorna Natambaye.
Il y a environ 1 mois, 11 présumés homosexuels ont été arrêtés dans la ville de Kaolack, alors qu'ils y célébraient un mariage gay, selon plusieurs témoins. Par la suite, ils ont été libérés et le procureur n'a retenu aucune charge contre eux. Un collectif d'associations de la société civile en colère organise une marche pour dénoncer les pratiques homosexuelles à Dakar. La manifestation n'est pas autorisée et la police disperse la foule. Ce vieux, âgé d'une 60aine d'années, fait partie du collectif.
Nous nous sommes rendus compte que depuis 2012, la seule émergence, c'est l'émergence des Gordiguen. Nous voulons une émergence économique, nous voulons une émergence politique et non l'émergence des Gordiguen.
Guyenne comprenait homosexuels. De son côté, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques, ASCAI, tire la sonnette d'alarme. Hors de question de laisser cette pratique pervertir la population. Imam Mohamed Mbaye.
Face à ce fléau que l'homosexualité est, ce fléau inexplicable, l'ASCAI par ma voix appelle les autorités étatiques d'appliquer la loi qui condamne les auteurs de l'homosexuel.
Le ministre de la Justice freine l'élan de ces associations et parle d'une absence de législation sur l'homosexualité.
La loi au Sénégal, il n'y a pas d'homosexuel. Nous avons une législation qui condamne ceux qui pratiquent des actes contre nature dans un lieu public. Mais toute personne, quelle qu'elle soit, a des droits.
Dans l'article 319 du Code pénal, il est dit que tout acte contre nature est puni par la loi. Or, l'homosexualité fait partie de ce lot. Les propos du ministre fâchent non seulement ses organisations, mais aussi une bonne partie de la population sénégalaise. Et comme pour mettre de l'huile sur le feu, ou seulement par inadvertance, un jeune chanteur, adulé avec un public composé essentiellement de jeunes, se promène avec un sac à main. Sur les réseaux sociaux, ses fans le copient. Et c'est parti. Deux jeunes garçons ont été tabassés dans deux quartiers de Dakar pour avoir porté des sacs à main pour femmes. Le chanteur se défend. Wally Sek.
Je précise, cartable.
Depuis plusieurs jours, on parle de ce sac qui serait un sac féminin. C'est pas vrai. Mais le problème de l'homosexualité, il a toujours existé au Sénégal. Maintenant, que les gens se battent pour qu'il n'y ait plus d'homosexuels au Sénégal. De toute façon, moi, je suis pas homo. Dans ma famille, il n'y en a pas.
Sur Facebook, par exemple, on peut voir une campagne dénommée Bring Back Our Bags ou Bring Back Our Bras. Presque toutes les associations de défense des droits de l'homme ne veulent pas se prononcer sur la question, par peur d'être taxés d'homophiles. Les organisations de la société civile précitées, elles, ne s'en arrêtent pas là. Elles exigent la démission du ministre de la Justice et prévoient de nouvelles marches de protestation. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Gros plan à présent sur les CP, deux initiales bien connues à Cotonou, puisqu'il s'agit de chambres de passage. C'est là où les couples illégitimes ou d'un soir se retrouvent dans ces chambres. Les CP ne laissent pas indifférents sur place, comme l'a constaté la correspondante de VOA Afrique au Bénin, Ginette Fleur Adande.
Lieu de détente pour certains, les chambres de passage ont investi Cotonou et sont implantées presque dans toutes les rues. Des propriétaires n'hésitent pas à mettre leur maison au service de ce commerce du CES. Avec 1000 francs CFA, vous avez la possibilité de vous procurer du plaisir et d'en procurer à votre conquête. Gilda Céali, la trentaine à peine, ils s'y rendent 4 fois par semaine.
Moi, je trouve aucun inconvénient à fréquenter les chambres de passage. Les chambres de passage, si ça n'existait pas, il fallait bien les inventer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire chez soi. On ne peut forcément pas amener toutes ces conquêtes à la maison. Il peut bien avoir des jours où on a des rencontres sans lendemain.
Je félicite les gens qui ont ce cerveau de créer les CP dans les rangs. Voilà. C'est bon pour les adultes. Moi, j'adore ça quand même.
Des matelas peu confortables, des draps à peine séchés, des préservatifs qui jonchent le sol, des serviettes qui ne donnent pas envie de prendre un bain, des douches en désaccord avec la propreté. C'est le spectacle que donnent ces établissements au grand désarroi de certains qui y voient un facteur de dépravation extrême.
C'est un système trouver l'argent pour l'argent. Ils font des lits et puis ça, il n'y a pas l'entrée. Ils sont pas gênés. Ces maisons-là poussent comme des champions, côté même des centres éducatifs. Ce n'est pas bon, ça ne dure pas.
Si moi je vais aux champs de passage, ça me donne de ma chance.
Mais bien, quelle personne peut monter sur le sol?
Des fois, tu es dedans, c'est une heure de temps, tu n'aimes pas encore fini de ce que tu fais, on vient te taper la porte. C'est des comédies, c'est des reports, quoi. Donc, c'est pas la peine.
Le chiffre d'affaires par jour est au moins de 500 000 francs CFA en semaine et plus quand c'est le week-end. La clientèle de ces lieux reste les femmes mariées et d'un certain âge à la recherche d'une certaine jeunesse accompagnée de partenaires plus jeunes qu'elle. Ce traditionnaliste y voit un danger pour la survie du noyau social qu'est la famille.
Cette femme ne doit plus rester dans la collectivité ou cette femme peut-être doit être lavée de ses souillures avant d'être encore installée dans la collectivité. Il faut ces rituels. Mais quand l'homme à son tour ne pense plus à ça, qu'il méprise tout ça là, c'est à lui les esprits vont réclamer les comptes.
Chose curieuse, ces CP naviguent dans l'illégalité puisque selon le directeur de l'hôtellerie et du tourisme, il n'y a aucune loi qui autorise leur implantation dans les rues.
Et nous interdisons formellement et strictement le genre de chambre de passage parce qu'il n'y a pas les normes d'hygiène et de santé. C'est un travail de sensibilisation, de mesures coercitives qui est en cours pour vraiment rendre la situation normale.
En attendant donc que nos lois ne viennent assainir le milieu, les promoteurs s'en mettre plein les poches. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pinot à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer Sangaré, Yuba à Bamako et Adama Bandaogo à Ouagadougou. Comme retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.